Une chronique rigolait pour le décryptage et l'onde de choc après la victoire de Donald Trump.
Radio G 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations locales de Radio G. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
On commence avec le programme de la semaine. Ce qui s'est passé déjà lundi et mardi, on était avec le Shabada. On a parlé du défi 24 heures Angers Téléthon au profit de l'association Angers Téléthon. Et demain, on va parler des JNP, les Journées Nationales des Prisonniers. Ce soir, on n'a pas d'invité. Mais on va faire un petit best-of, n'est-ce pas Nolwenn ?
Oui, exactement. On va faire ensemble un point d'étape avec certains de nos meilleurs moments. Difficile d'être exhaustif, mais nous allons vous donner un aperçu le plus fidèle possible de ce qui fait Topette. On va remonter le temps jusqu'en 1913 avec les 111 ans du NDC. On va aussi revenir avec Nicolas et ses papates et surtout ses amis du bocal avec qui il crée des jeux de plateau. Toujours en plateau, mais surtout au micro, on entendra de nouveau Richard pour nous parler du podcast de la mémoire arrangée, des voix qui improvisent en direct des personnages écrits dans une intrigue policière burlesque.
Des invités, mais pas que Nolwenn, je crois qu'on va aussi avoir des chroniqueurs.
Tout à fait, Sarah, elle va nous emmener dans une bonne adresse angevine pour découvrir un restaurant du coin. Et Mathis et Emilien nous partageront leur dernière séance coup de cœur. Topette, c'est tous les soirs de 18h10 à 19h en podcast sur radio-g.fr.
Et aussi sur les réseaux sociaux, c'est @topetteradio-g. Et c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h. Topette, avec Pierre Benoît.
Avant toute chose, faisons une petite balade avec Camille. Elle nous emmène ce soir au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers. C'est parti.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons découvrir l'hôtel de Marie. Il ne te dit rien? Pourtant, tu le connais forcément. C'est le Musée d'Histoire Naturelle d'Angers. Situé en haut de la place Imbach, ce bâtiment plutôt sobre, datant du 19e siècle, ne laisse pas présager de son intérieur éclatant. Ce n'est pas tant des collections dont je vais vous parler là, même s'il y aurait à dire, mais plutôt du bâtiment. Lorsque l'on monte les quelques marches menant à l'accueil, on aperçoit de suite l'ampleur de l'hôtel particulier. Des escaliers construits sur le schiste mènent à une cour circulaire donnant accès à de nombreuses pièces. Les plafonds sont richement décorés, laissant imaginer comment ils étaient à cette époque. Afin de continuer notre périple, il nous faut sortir dans le jardin intérieur de la demeure. Surplombant le boulevard Carnot, il fait face au Palais des Congrès. De la rue, on ne se doute pas qu'un tel jardin peut exister derrière cet immense mur. Une dernière salle nous attend. Savais-tu qu'il y a de ça environ 3 ans, un squelette de reptile marin vieux de 92 millions d'années a été retrouvé dans des troglodytes angevins? C'est d'ailleurs ici que tu pourras découvrir ce fameux plésiosaure. La grande porte, qui nous mène à la salle, a été superbement sculptée par Pierre-Louis David, père du célèbre sculpteur David d'Angers. Une fois ouverte, on a une vue d'ensemble sur la galerie paléontologique. Pour la petite anecdote, cette salle est l'ancienne cour d'appel d'Angers. Des fossiles, des pierres précieuses, l'histoire de nos sols ou encore de vieux os. Beaucoup de pièces nous permettent de mieux comprendre l'histoire de l'Anjou et sa formation. Pas encore rassasié ? Afin de compléter cette visite, tu peux te rendre à l'Arboretum d'Angers. Ce musée abrite de belles collections d'herbiers au cœur d'un magnifique parc arboré de 7 hectares. Le but est d'offrir aux amateurs de plantes et de jardins un espace privilégié afin de découvrir de nombreuses variétés de végétaux. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Camille, que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et on commence ce soir avec notre séquence Best of Nolwenn.
Exactement, on revient ce soir avec Valentin et Thibaut qui nous avaient présenté le NDC Football et surtout l'ouvrage qui est coécrit avec des collégiens sur les 111 ans du club.
Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Alors Valentin Dedon, écrivain et podcasteur entre autres, et puis je le découvre à l'instant hors antenne, tu es aussi footballeur à NDC, hein, c'est ça ?
Footballeur depuis toujours, d'abord footballeur, ouais.
D'abord
je pense
footballeur.
Que c'est ce qui me définit le plus, c'est ce qui nous définit le plus, je pense les footballeurs de tous les clubs de France, ouais.
T'es à quel poste toi ?
Plutôt dans le milieu de terrain, mais tous les postes sont... m'intéresse et voilà. Peuvent être occupés si besoin. Ouais.
Un coup tu mets un but, un coup tu empêches de mettre un but, si je comprends bien. Tu distribues le ballon, les numéros 9,5-10 qui disparaissent de plus en plus des terrains de foot, mais ça on pourrait en parler dans un autre cadre si vous le voulez bien. Je dis vous parce que t'es accompagné de Thibaut. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Thibaut Volant, manager du club depuis un an et tu es éducateur à NDC depuis une dizaine d'années. Et aussi licencié, j'ai cru comprendre, défenseur central, c'est ça ?
Exactement, vétéran depuis peu, sur une première année. Et puis oui, investi déjà au club depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé sur Angers dans le cadre de mes études et c'est comme ça que j'ai rejoint le club.
Bon, tu faisais du foot avant peut-être ?
Oui, toujours footballeur aussi, je me reconnais aussi dans les mots de Valentin, on est footballeur avant tout.
Bon, aussi passionnant que soient vos récits, vos parcours de vie footballistique, on va essentiellement parler ensemble de cet ouvrage qu'on a sur la table du studio, 111 ans de football à NDC, qui est sorti tout récemment. Alors 111 ans, donc si on fait le calcul, ça commence en 1913, on est en 2024. De quoi ça parle ? On va en parler dans quelques instants, mais peut-être pour présenter les choses, Thibaut, je me tourne vers toi. NDC, Notre-Dame-des-Champs, club mythique à Angers, est-ce qu'il est encore utile et nécessaire de le présenter ? On va quand même le faire.
Ouais, toujours. Bon, il y a des évolutions. Puis c'est un club qui a bien grandi ces dernières années. Donc oui, c'est toujours utile. C'est un des gros clubs d'Angers, le plus gros club de Maine-et-Loire la saison dernière. Alors, on se bataille un petit peu pour le nombre de licenciés sur la saison qui va venir là, mais plus de 700 licenciés avec toutes les pratiques représentées, aussi bien celles des jeunes, des plus vieux. On peut jouer au foot à NDC de 5 jusqu'à 60, 77, voire 80 ans comme au club.
82 ans, Michel Jalado, le doyen licencié. Ouais.
Donc voilà, aussi bien les garçons que les filles, et puis avec des pratiques un petit peu diversifiées qui sont lancées. Là, je pense au foot en marchant, et puis d'autres pratiques qui existent au club. Donc il se passe plein de choses, du foot évidemment, mais surtout d'autres projets qui font un peu la singularité du club, sur ces dernières années.
NDC, il y a pas que du foot, il y a aussi des à côté, et justement, il y a des actions de sensibilisation, mais peut-être d'éveil aux actions sportives, et puis aussi, justement, ce qui permet d'aboutir à un ouvrage comme celui dont on va parler maintenant.
Ce que je disais, ouais, la singularité du club, c'est aussi les projets qui sont hors foot. Alors, le club, il se divise un peu entre deux pôles importants, à la fois la partie foot et puis la partie hors foot autour de ce qu'on appelle, nous, le pôle club lieu de vie. Avec des projets tels que d'un projet de développement durable qui vit cette année, sur différentes actions, des choses de l'ordre de l'insertion professionnelle, et puis l'académie, qui a notamment participé à la construction de ce livre. L'académie à NDC, c'est un groupe d'une cinquantaine d'enfants du CM1 à la 3e qui font à la fois des temps d'accompagnement scolaire et puis des séances de foot supplémentaires. Ça s'est ouvert il y a 9 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de développer ce projet dans le cadre d'un service civique. Et puis, le club m'a fait confiance pour faire vivre le projet ensuite, comme au quotidien. Et donc, l'idée aussi de cette académie, c'est de pouvoir accompagner les enfants un peu plus largement que le foot et de manière un peu plus globale à travers des projets autres. Donc, c'est des visites de la bibliothèque du quartier, différentes choses qui ont pu être faites dans ce sens-là avec un tas de projets qui se développent autour aussi de cette académie qui participe à structurer le club au quotidien.
On va parler de ces 111 ans. Alors 111 ans, c'est un chiffre qui intrigue quand même. Souvent, on fête les 100 ans plutôt, mais peut-être qu'on a dû se dire, tiens, 11, c'est un chiffre, un nombre qui parle. Thibaut, Valentin, parlez-nous un petit peu de cet ouvrage. Dans quel cadre il s'inscrit et qu'est-ce qu'il raconte ?
Alors l'idée de ce livre, c'était de raconter une histoire sportive et humaine du club. C'est un peu le le thème qu'on s'est fixé, quoi. Voilà, un club de football, c'est évidemment des matchs, du football, des buts, des trophées, mais il n'y a pas que ça partout, et encore plus à NDC. Voilà, il y a toute une histoire humaine, des humanités, des personnages, des beaux moments qui révèlent aussi un esprit du club, et on a voulu à travers ce livre dessiner, quoi, cet esprit particulier qu'on ressent tous et qui crée un attachement. Ouais.
Valentin, sur la construction de l'édition, de l'écriture, il y avait des collégiens. Comment tu as travaillé et pourquoi cette approche aussi ?
Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on a voulu aussi faire un livre très accessible, facile à prendre, à ouvrir, pas inhibant, très imagé, très dynamique, avec des contenus textes assez courts, on peut piocher dedans. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu vraiment impliquer toutes les composantes du club pour que cet ouvrage soit fait collégialement. Donc, c'est passé par le fait de solliciter tous les licenciés à travers un formulaire, que chacun puisse partager ses souvenirs, son lien intime fort au club pour créer une base d'archives. C'est passé aussi par un comité d'anciens pour partager la mémoire. Et puis, c'est passé aussi par l'implication d'une vingtaine de collégiens, collégiennes qui font partie de cette académie dont parlait Thibaut et qu'on a impliqué sur le projet et qui ont écrit un texte, un contenu dans chacun des chapitres sous la forme d'ateliers d'écriture que j'ai animé avec eux et les éducateurs, les encadrants du club. Et puis ces jeunes-là, ils ont passé un petit peu de temps avec moi, avec le graphiste. On est allés, ils sont allés visiter l'imprimerie à Beaucouzé où a été imprimé le livre. Donc voilà, ils ont découvert comment on fabrique un livre, quels sont les métiers autour du livre. Et voilà, on voulait les ouvrir aussi à ça, à cet objet auquel on croit.
Est-ce qu'on a pu tout dire, Thibaut ? Oui, on a quand même c'est quasiment exhaustif là.
Oui, à la fois oui, en même temps il a fallu forcément faire des choix parce que 11 c'est pas 12, donc il y a toujours une anecdote, un but, comment une date qui est aussi importante et qui a pas pu forcément rentrer à l'intérieur du livre, mais il y a plein de choses et encore une fois ça témoigne aussi d'un état d'esprit et la construction elle est importante. Enfin, Valentin évoquait l'aspect participatif là des licenciés et puis des familles du club, c'est aussi la logique du club bien au-delà, c'est-à-dire le club fonctionne aussi sur des projets de 4 ans qui sont construits de manière participative aussi avec les licenciés et les dirigeants. Et je trouve que à la fois ça fait sens dans la construction de ce livre et en même temps ça permet à chacun de se reconnaître à l'intérieur, quoi.
S'il y avait un mot à retenir, Valentin, concernant ce beau projet, toi ce serait lequel ? T'as pas le droit de dire football, t'as pas le droit de dire 11, ni humain, je sais pas, ou peut-être que c'est tout ça en même temps.
Tu as grandi la liste des mots que j'ai pas le droit de
bon,
dire.
C'est une phrase, une petite phrase alors.
Non, mais c'était, je vais dire passionnel parce que ça a été un projet passionnel. Moi, je joue au club depuis 6 ou 7 ans et voilà, j'ai eu le temps de découvrir ce club et son intérieur. Et quand on est footballeur, qu'on aime jouer au football, le club de foot c'est un espace très important dans sa vie. On a besoin de cet espace-là et avoir l'opportunité, la confiance aussi des dirigeants de pouvoir restituer tout ce qu'on ressent, toute cette charge dans un objet livre qui compte pour moi parce que c'est mon métier. Ça a été quelque chose de très fort et je l'ai fait de manière passionnelle et engagée avec tous les autres et du coup ça a été un moment vraiment génial à vivre de pouvoir travailler sur ce projet.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Un florilège d'anecdotes et d'histoires sur NDC qui est à découvrir dans cet ouvrage des 111 ans d'histoire. On poursuit en musique avec « Je pars » de Grise Cornac.
Voilà, je pars, quelques souvenirs, 50% coton, 50% mystère de la ficelle en couteau. Voilà, je pars, bagages sous la peau. Le soleil est doux, je prends la route, mon nez dans ton cou, à l'ombre de la roue, des jours qui s'ensuivent. À l'ombre de la roue, des jours qui s'ensuivent. Je m'accompagne, le temps s'allonge, je ne les compte plus, les kilomètres de songe. Au va, le petit vélo va, un pas, un battement d'air. petit vélo va, va un battement d'air. Dans les sentiers d'avril, mon squelette frivole, même pas peur, plus de fleurs. Plus de fleurs que de mal sur le fil de la bobine. Fibre de soie, 50% éponge énigmatique. Sa musique dans mes veines chante le jukebox. Sa musique emporte quelques inconnus nostalgiques. Au cœur de la ville, on danse le mambo. On joue à l'orgue des parfums. On souffle dans le mien.
C'était Grise Corniak sur le 101.5 FM de Radio G, le bureau officiel des créateurs angevins, ludiques, bocal. Voilà de quoi nous parlait Nicolas Bonneau dans Topette. Tout est dans le nom, l'occasion, en plus d'avoir testé son dernier jeu Tic Tac Tower.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Tu as créé entre autres les papates. Tu pourras nous expliquer les règles. C'est très intéressant, très ludique, très fun pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai hâte, je vais l'acheter. Voilà, je vous le dis pour pouvoir l'essayer. Membre du bocal, parce que tu n'es pas tout seul à faire ça sur Angers. Il y a beaucoup de créateurs et le bocal, ça s'appelle justement le bureau officiel des créateurs angevins ludiques. Est-ce que tu peux nous parler du lieu, s'il te plaît, Nicolas? C'est un lieu physique?
Alors, il y a un lieu physique où on va se retrouver deux fois par mois pour pouvoir tester nos prototypes ensemble et puis essayer de régler les petits détails qui font que ça fonctionne pas, parce qu'un prototype ça marche pas du premier coup. Et on a le plaisir de se retrouver à l'ACA, qui est une maison de quartier sur Angers, qui nous accueille donc deux fois par mois pour qu'on puisse tester tout ça, quoi.
Donc c'est un peu une fédération angevine d'une certaine façon, le bocal aussi, il y a des adhérents, il y a plusieurs.
Alors,
créateurs.
C'est une association, donc on est une douzaine d'auteurs, on a deux nouvelles autrices là qui viennent de nous rejoindre. On essaye de rassembler un maximum d'auteurs et d'autrices, puisque c'est toujours plus intéressant d'avoir plus de regards possibles sur nos jeux. Et à la différence de faire tester nos jeux à nos amis, à nos familles, ben on a des regards un petit peu plus appuyés, un peu plus poussés, un peu plus aiguisés. Donc c'est toujours plus agréable de faire ça. Et après, chaque auteur, autrice vient avec son jeu, son prototype. Quoi qu'il y ait eu d'aide de la part du bocal autour, ça reste toujours son jeu, son prototype. Et nous, on a toujours juste le plaisir d'avoir pu l'aider à faire avancer.
Donc on est plutôt auteur-autrice d'un jeu que créateur-créatrice, c'est ça le terme ?
C'est ça, c'est le terme final, c'est auteur ou autrice de jeu. Après, il va falloir trouver un éditeur si on veut qu'il soit vendu dans le commerce. Et après, il faudra des distributeurs qui veulent bien le distribuer. Et après, il faudra des vendeurs qui voudront bien le vendre. Et au final, plein de joueurs.
C'est tout un processus.
Exactement.
Donc, à quoi ressemble, ce sont des personnes professionnelles essentiellement, ou on a un petit peu de tout, des personnes qui sont diversifiées sur d'autres activités? Qui sont les auteurs et autrices?
Alors, en France, en tant qu'auteur ou autrice qui vivent de ce métier, il y en a une vingtaine en France qui peuvent en vivre, parce qu'ils ont des noms connus, parce qu'ils font des jeux qui fonctionnent, parce qu'ils ont des éditeurs qui les suivent, et que voilà, ils font du beau travail et qui sont reconnus pour ça. À Angers, il n'y a pas d'auteurs qui en vivent, donc c'est avant tout une passion. La passion du jeu et la passion de créer des jeux. Et après, certains jeux sont édités. Alors, j'ai la chance d'en avoir un d'édité. Au bocal, on est plusieurs à avoir des jeux édités. Je peux même en citer.
Mais bien sûr.
Et oui.
C'est la question suivante.
Ah, bah voilà. Vous avez peut-être vu passer le jeu qui s'appelle Maudit Maudit, dont un des auteurs est Laurent Prin, qui fait partie du bocal. On a Le Point sur la table aussi, qui est un jeu d'ambiance et d'association de mots, un peu comme Maudit Maudit, qui s'appelle Olivier Mousseau, l'auteur. Et on a aussi Antoine Huchin qui a été édité avec son jeu Quadri. Et lui, son éditeur, c'est un éditeur angevin qui s'appelle exactement Creative and Cool. Donc un éditeur angevin qui, on a cette chance là d'avoir un éditeur pas loin qui vient à nos réunions des fois pour tester les jeux et qui signe deux trois, qui pourrait signer deux trois jeux du bocal. Donc ça c'est plutôt agréable. On a Domimo. Domimo, on est quatre auteurs dessus, dont j'en fais partie, mais il y a Pascal Lemagneau, Benjamin Gélin, Antoine Huchin et moi-même. Et donc ce jeu, on l'a auto-édité avec le bocal. Donc on s'est fait maison d'édition. Alors il y a que 500 exemplaires, il faut nous contacter directement si on veut les trouver, parce que alors, on peut en trouver chez Sortilège s'il y en a encore à Angers. Mais voilà, on s'est amusé à faire cette petite édition entre nous, et on a un jeu qui a été édité de Pascal Lemagneau qui s'appelait Drac Attack, qui hélas je pense n'est plus disponible.
Nicolas, tu parles de sortilège, c'est étonnant parce que ça me fait penser justement automatiquement quand on parle jeu de plateau à Angers précisément, il y a des choses qui commencent à arriver visuellement, on imagine des choses, il y a des univers associés un petit peu, on va pouvoir parler du festival auquel vous participez à Saint-Rémy-la-Varenne, mais qu'on comprenne bien un petit peu, on est dans quel registre d'univers de jeu, est-ce que tous les univers sont associés du jeu vidéo au jeu de rôle incarné avec des cosplays et jeux de plateau en passant?
Alors au sein du bocal, on est essentiellement des jeux d'auteur plateau, donc jeux de cartes, jeux de plateau, alors ça peut être des jeux de plateau un peu plus longs, pas jusqu'au jeu de rôle. Il y a des joueurs de jeux de rôle au sein de notre association, mais c'est pas de ça dont on parle, puisqu'on est vraiment sur la création de jeux de société, donc jeux de plateau. Donc on parlait des Papates, qui est mon premier jeu qui a été édité. Lui, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu d'extérieur. Donc c'est encore autre chose, mais ça peut faire partie des jeux qu'on teste entre nous.
Jeu de rôle, c'est marrant. Mais bon, bref, le festival des jeux auxquels vous participez à Saint-Rémy-la-Varenne, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même un gros événement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller y faire un tour et c'est là, pour le coup, il y a tout un monde.
Tout à fait. Donc ça, c'est au mois de juin, je crois, qu'il se passe ce festival. C'est un beau festival au sein d'un prieuré qui est organisé par plusieurs personnes, dont Pascal, qui fait partie aussi qui est aussi auteur de jeux. Nous, on y participe en tant qu'auteur avec des prototypes. On fait tester nos jeux pendant le festival, et donc on a ces retours publics qui sont toujours intéressants aussi, en plus des retours en interne entre nous. Et donc ça fait partie des festivals dans le coin, parce qu'il y a aussi un festival à Angers qui s'appelle Deux Jours en Jeu, qui a eu lieu en début octobre, et là il y a même un concours de prototypes qu'on organise. On y participe aussi quand on peut y participer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'organisation, et on a plusieurs auteurs qui viennent aussi un peu d'ailleurs. On a eu des fois des auteurs qui venaient de Lyon pour venir faire ce festival, alors qu'il n'y a aucun enjeu à ce festival à part gagner le coup de cœur du public.
On va parler de celui que tu as créé, ton œuvre, un petit peu ton chef-d'œuvre, celui qui est le plus abouti entre guillemets, en tout cas qui est édité, qui est distribué, qui est vendu, qu'on peut acheter à Noël par exemple.
Exactement.
Petite idée. Oui. Ça s'appelle Les Papates. Attention aux crocodiles.
Exactement, attention aux crocodiles. Oui, j'ai la chance en plus de ce jeu d'avoir un éditeur qui est très connu pour son jeu extérieur en bois qui s'appelle le Molki. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là.
Ça parle.
Mais mon jeu a été mis dans une caisse de Molki, donc on le retrouve assez facilement en magasin et un peu partout en France. Donc ça, c'est plutôt cool.
Tu peux nous expliquer les règles, s'il te plaît?
Exactement, nous allons jouer des animaux dans la savane et il fait très chaud dans la savane. On a envie d'aller boire à la rivière. Il y a une corde qui est tendue à 7 pas de distance. Et derrière la corde, il y a les crocodiles. Donc attention, crocodiles, il faudra jamais envoyer ces papates qui sont nos palets. Donc c'est des palets qui font 10 cm de diamètre en bois massif français et qu'on va jeter pour se rapprocher le plus possible de la rivière. Mais attention, il faudra toujours renvoyer ces papates de plus en plus loin. Ça veut dire que si on ne dépasse pas ses propres papates où il y a nos empreintes de notre animal dessus, on va pouvoir jouer un lion, un zèbre, une gazelle ou un éléphant. Et si on les dépasse pas, on va se faire un croche-papate. Ah oui, et donc si on se fait un croche-papate, la papate qu'on vient de lancer sera éliminée. Toutes les papates qui sont éliminées, on les jette au crocodile, histoire de compter les points à chaque fin de manche, qui seront du bon côté de la rivière. Donc il faudra être le plus proche possible. Si on est le plus proche, on aura plus de points que si on est plus éloigné. Il faudra avoir mis le maximum de papates en jeu. Plus il me reste de papates, plus j'aurai des points supplémentaires. Et si c'est moi qui ai la plus petite distance entre mes papates avant, mes deux palets les plus proches de la corde, j'ai le droit même à deux points bonus. Parce que sans mes papates avant, je ne peux pas me pencher pour boire la rivière.
Tu maîtrises bien les règles, hein. On a l'impression que c'est toi qui l'a inventé, oui, oui. Ce jeu. C'est vraiment, il suffit de lire une fois les règles et on comprend d'instinct, en fait, la mécanique. Ça, c'est ce qu'il y a déjà en cours. Là, exactement. T'es venu avec des espèces de cubes. C'est un prototype. Tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ce prototype?
Exactement. Ce prototype, c'est le prototype que j'ai présenté sur le festival de deux jours en jeu qui s'appelle, et il y a un concours sur ce festival qui s'appelle Prélude le vendredi soir à la Bibliothèque Toussaint, Angers. Et on était une douzaine d'auteurs à présenter des prototypes. Donc, un prototype, c'est un jeu qui n'est pas édité, c'est un jeu qui est en cours de réflexion ou qui aboutit. Il peut être abouti aussi. Et donc avec ce jeu qui s'appelle, que j'ai appelé Tic Tac Tower, en référence à Tic Tac Toe en version anglaise, c'est le morpion de chez nous. Donc il faut aligner trois pions de sa couleur. Sauf qu'ici, on va jouer en hauteur. On aura trois niveaux de jeu et il va falloir réussir à aligner trois de ces pions, mais sur les trois hauteurs. Les trois pions devront passer par la hauteur. Donc soit on fait une tour avec trois pions qui m'appartiennent sur la même case, soit je fais un alignement en escalier en 3D. Donc c'est un escalier 3D, il faut vraiment faire un alignement dans la diagonale 3D du cube.
Topette, avec Pierre Benoît.
J'ai adoré, j'avais vraiment adoré ce Tic Tac Tower. J'ai pas tout compris, ça a été très rapide, mais moi je serais curieux d'y jouer, je sais pas toi Nolwenn.
Oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup découvrir. On a pu découvrir visuellement, mais on n'a pas pu jouer donc.
Et l'émission continue, on aura des best-of encore tout à l'heure, mais entre-temps, je crois qu'on part faire un petit tour en resto.
Exactement, on va partir maintenant découvrir une bonne adresse angevine avec Sarah, et on va chez Marguerite.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour « On va où ?» Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Coucou les brunchers, aujourd'hui je vous parle d'une adresse intimiste et réconfortante et je fais l'autonomination et élection du meilleur brunch sur Angers, j'ai nommé chez Marguerite. À un moment donné, il faut dire les choses, l'avocat, le saumon, le pancake, on en a marre. On veut un brunch du dimanche qui change, qui nous réconforte, qui nous amuse et qui nous fait kiffer. Ici, tu arrives et tu te sens à la maison avec une décoration chaleureuse, familiale et colorée. Concept hyper clair. Au bar, tu as café, thé et chocolat chaud à volonté avec des confitures et pâtes à tartiner maison, my dear. Avec cela, on te sert un jus d'orange, puis le salé arrive. Un œuf à la coque, une soupe, une quiche, une salade et des fromages. Waouh, ma seule question est de savoir par quoi je vais commencer. Cuisson de l'œuf parfaite, de la baguette aux graines, tradition et sésame également, croustillante et du beurre salé. La soupe carotte, potimarron, coriandre est succulente, bien assaisonnée, parfumée et gourmande. Une quiche ultra épaisse à la patate douce et aux noix avec une pâte bien cuite et croustillante et un appareil généreux, original et tout simplement divin. Tu vois, le genre de quiche où tu termines, t'as plus forcément faim, hein, mais tu sais que tu vas y retourner. Ah, et on en parle de la salade qui l'accompagne ? Je me demande même pourquoi je n'y ai jamais pensé. Sarrasin, roquette, chou rouge, feta, noisette, c'est à tomber. Ultra coloré et goûteux. Le mélange de textures apporte un beau contraste avec les autres plats. C'est un vrai coup de peps, sain, healthy et gourmand. Assiette de 4 fromages locaux de très bonne qualité avec un coup de cœur pour la tome aux noix. Il y avait du galet de Loire, du Sainte-Maur de Touraine et de la tome de brebis. On est dans l'ultra local, dans le moindre détail et c'est un véritable bonheur des femmes aussi talentueuses et investies qui font un travail remarquable, engagé, droit et carré. Évidemment, vous trempez aussi en même temps le reste de votre baguette pour déguster les fabuleuses confitures. Et voilà que le sucré arrive. Cookies aux pépites de chocolat, moelleux à cœur, très bon. Un fromage blanc bien riche, bien gras comme on les aime, et sa succulente compote de pommes maison à la cannelle. Le clou du spectacle, le dessert pour lequel je donne un rein, c'est la sorte de babka à la cannelle, dinguerie absolu, croustillant, moelleux, gras, parfumé, savoureux. J'en veux au goûter, en dessert et au petit-déj. C'est le brunch que tu dois tester en 2024. Les filles font tout elles-mêmes. La cuisine est familiale et tellement maîtrisée. C'est un bravo, un merci, un « voulez-vous venir habiter à la maison, s'il vous plaît ?» Les Marguerites, c'est deux sœurs qui déchirent et qui vous accueillent rue Saint-Lô tous les midis du mercredi au dimanche. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi.
Eh ben ça y est, j'ai faim, super, merci beaucoup Sarah. Sarah, si vous aussi vous avez faim et vous ne savez pas où aller ce soir, rendez-vous dans l'onglet Podcast Plus du site internet pour découvrir tous les podcasts dont va où. Et justement, on va où maintenant, Nolwenn ?
Eh bien, Richoult nous a parlé de Javraz, des créations de fiction audio. Et la dernière sortie de la série, c'est La Mémoire Arrangée. Il nous avait raconté comment tout était écrit, enregistré et diffusé. Surprise, Titeuf était de la partie.
Bonsoir Richard, comment vas-tu ?
Bien, je vais bien. Bonjour, bonjour à tous.
Il paraît qu'on peut t'appeler Richoult, je sais pas si...
Richoult, oui, ou
Richoult. Ok, Richard ou Richoult. On va parler ensemble de Javraz, création de podcasts, de fiction. On en entend parler assez souvent dans la case de Seb, ici sur le 101.5 FM. Mais ce soir, tout particulièrement, en tout cas dans un premier temps, tu voulais nous parler de La Mémoire Arrangée, nouvelle création, nouvelle série qui débarque pour toi, créée par toi, inventée par toi. La trame est écrite d'avance, hein, pour le concept en gros, mais les personnages que tu fais venir, tes copains, tes copines, des comédiens, des comédiennes, des fois même des grands noms, on va en citer quelques-uns dans quelques instants, mais pour l'instant on n'en dit pas plus, découvrent en fait leurs personnages et inventent et improvisent des lignes de dialogue, tout simplement, tension garantie. Bah si, justement, j'ai un petit extrait de ce à quoi ça peut ressembler.
Je sais pas, tu as beau, hein.
Oui, moi aussi je suis à bout. J'ai couru beaucoup pour venir ici. J'ai laissé le bar au ce putain de barman en qui j'ai absolument pas confiance.
Laisse-moi passer, merde, je suis ton père. Je suis ton père, je rigole plus là. Là je rigole plus, je t'ai donné la vie, je peux peut-être la reprendre aussi.
Ah oui, c'est digne. Là, on se croirait dans une série Netflix, une grande production. On y est vraiment dedans. On a déjà les images qui se créent. Et pourtant, c'est vraiment que de l'audio. C'est pas l'extrait d'une série Netflix. Bien au contraire, on parle bien de La Mémoire Arrangée. C'est un extrait que tu nous proposais, Richard.
Tout à fait.
Parle-nous un petit peu de cette intrigue, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette série, La Mémoire Arrangée?
Alors, La Mémoire Arrangée, ça existe déjà depuis 3 ans. Là, on va démarrer une deuxième saison. Et dans la première saison, en fait, on suit les aventures de l'inspecteur Simonin, qui se voit confier une mission, à savoir enquêter sur un corps qui a été retrouvé dans la Maine, juste devant le Héron Carré. Et en même temps, en fait, on lui attribue le fait de devoir surveiller une femme amnésique, un peu lunatique, un peu folle, et il doit faire sa mission en gérant cette femme.
Donc là, on a l'intrigue, on a les personnages, on a des voix aussi qui vont se griffer dessus, bien évidemment, qui vont incarner ces personnages. Alors comment ça marche pour eux ? Voilà, donne-nous un petit aperçu audio. En gros, toi, tu as une voix, tu es présent dans la série, dans chaque épisode, on t'entend guider, exprimer. En fait, on a les coulisses en même temps.
En gros, moi, j'écris le scénario à moitié. Je fais juste les trames du scénario, le squelette, comme on dit. Et je vais pas plus loin, je n'écris pas les dialogues. Je vais annoncer le squelette et les personnages de mes acteurs qui enregistrent un soir, et ils improvisent le dialogue au fur et à mesure par rapport à ce que je vais dire. Ce qui fait que entre chaque point de squelette, des fois ils vont dire noir, et je vais leur dire bah non, en fait ton personnage tout d'un coup il change, il tourne sa veste, et puis ça fait des situations plutôt drôles.
C'est un petit peu comme si on était sur un lieu de tournage, en fait, et qu'on avait la scène qui on disait action, on y va, et puis d'un coup, attends, on va juste refaire. Est-ce que des fois on refait des passages carrément ?
Tout à fait, j'ai un jingle pour ça où en fait j'indique qu'on est sorti du cadre, et puis on rembobine en arrière et puis on revient.
Alors on va écouter la voix de quelqu'un qu'on devrait reconnaître, si ce n'est pas la personne officielle, au moins les personnages qui sont incarnés par cette voix. Mais généralement, les personnes qui font les personnages, les voix auxquelles tu fais appel, qui sont-ils, qui sont-elles ?
La plupart sont des connaissances ou des amis proches. Simonin est joué par un ami proche du nom de Simon Picard. Mélectrique, c'était mon ex-conjointe qui fait aussi le deuxième personnage principal. Puis après, c'est des proches. En fait, toutes ces personnes sont amies et ont travaillé ensemble en même temps à Terra Botanica. Donc, c'est des animateurs un peu barrés.
Voilà, donc si on a eu l'occasion d'aller au parc quelques fois, là, on pourra reconnaître des voix. Alors là, c'est la voix
Plus vraiment.
Ah oui, c'est plus les mêmes. En tout cas, si on y était il y a quelques années, on pourra peut-être s'amuser à retrouver un visage par-dessus. On va écouter cette voix-là qui est un peu normalement connue.
C'est un mec qui vient souvent à la maison pour faire des réparations du micro-ondes, apparemment.
Ok, et il n'aimait pas votre femme ?
Ah si, si, beaucoup.
Ah, du coup, il s'entendait
beaucoup
bien
trop.
Avec elle.
Beaucoup trop.
Ok.
Ouais.
Pourquoi trop ?
Je sais pas. Mais apparemment, il venait beaucoup et quand je viens, il s'en va, il a fini ses réparations.
Ok, ça marche. Il était plombier, non?
De quoi?
Il était plombier?
Ah, il fait plein de métiers.
Ok, ça marche.
Vous devriez vous méfier, je pense.
Je me tourne vers Nolwenn. Est-ce que tu as reconnu cette voix-là ou pas du tout?
J'ai pas reconnu, honte à moi.
Est-ce que Nicolas, tu reconnaîtrais cette voix ou est-ce
Nicolas,
que tu connais déjà?
Moi, je sais qui c'est.
Il sait, il fait partie de mes proches.
Moi, je sais qui c'est.
Et toi, Yaël, alors, est-ce que tu as reconnu cette voix?
Pas du tout non plus.
Ah ouais?
On peut peut-être. Ils sont jeunes aussi, hein, Richard. Ils sont.
Oh oui, vous allez l'avoir quand je vais vous le dire.
Paul?
J'ai pas le personnage, mais en tout cas, ça me dit tellement quelque chose.
Alors, bah, dis-nous, Richard.
C'est Donald Renew et c'est la voix de Titeuf ou de Spider-Man, Andrew Garfield.
Ah oui.
Et là, on a un mélange des deux, un peu.
Entre autres, parce que du coup, il fait énormément de voix, en fait.
Tout à fait.
Comment il s'est retrouvé là?
Pour le coup, en fait, on fait des festivals et conventions et des fois, on propose d'enregistrer des épisodes sur scène devant du public. Et là, les planètes se sont alignées. On m'a dit écoute, on a Donald Renew et je l'avais déjà démarché et il m'avait dit que c'était impossible parce qu'il ne descendait pas sur Angers, il restait sur Paris. Et là, ça s'est fait à Rouen devant du public et c'était trop cool.
Bon écoute, on espère que voilà, c'est vrai que ça vient confirmer. C'est toujours agréable d'avoir des, parce que c'est quand même une grande voix j'allais dire du cinéma français, mais en tout cas de ce qui passe dans nos oreilles. Donc c'est toujours gratifiant, j'imagine, d'avoir un guest comme ça. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, Richard?
Oui, alors on a eu Padge qui est littéralement la toute première voix des Lapins Crétins, mais aussi des petits êtres dans Rayman 2-3. On a eu Marc Le Serre qui est la voix de Joey dans Friends, qui est venu chez moi sur Angers et c'était encore plus cool. C'est un grand nom du doublage et qui nous a poussé en fait à aller plus loin dans le projet, à lancer une saison 2 et tout ça. Et après on a eu des youtubeurs, on a eu le Tropper, on a eu Alexane. Et là récemment, on est en train de tourner la saison 2 et j'ai déjà 2-3 noms de guests, dont un qui a été tourné là, à savoir Jeanne Chartier, qui est la voix de la plupart des personnages féminins des premières saisons des Cassos. Genre tu vois, non tu vois pas.
Mais là c'est pas la bonne référence culturelle pour c'est pas les bonnes générations.
Mince.
Je crois autour. Mais c'est des noms qui sont connus effectivement, les Cassos et tout ça, oui. On connaît, ça parle forcément à nos auditeurs auditrices. Peut-être pas Yaël et Nolwenn qui sont ni à Paul qui sont tous les trois de la même génération, mais en tout cas Nicolas lui ça lui parle bien évidemment.
Oui, moi ça me parle.
Vous chercherez sur YouTube les Cassos, vous me remercierez plus tard.
Voilà, c'est une culture des anciennes générations. Oui, il y a des générations qui se sont creusées entre-temps. Richard, pour revenir sur la mémoire arrangée, cette méthode d'enregistrement qui est quand même assez singulière, c'est voulu, c'est affirmé, c'est assumé, parce que ça entraîne aussi des complications. L'idée c'est avant tout de passer un bon moment, en fait.
Tout à fait. En fait, moi, à la base, j'écris le scénario surtout pour faire rire mes acteurs, mes amis. Et si eux, déjà, ils rigolent, moi, ça, j'ai gagné mon pari. Et puis après, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent par la suite et qui en rient aussi. L'idée, en fait, moi, ça fait 16 ans que je fais de la fiction audio, donc des feuilletons radiophoniques où c'est vraiment écrit, format théâtral, où on a nos répliques d'écrit. Là, on a voulu faire un mix entre du théâtre d'improvisation et de la fiction audio.
Et ça plaît, ça. Il y a des gens qui écoutent, qui sont emballés. Je parle de la mémoire arrangée particulièrement. Il y a un public fidèle qui cherche à savoir la suite de l'histoire à chaque fois.
Oui, alors là, depuis qu'on a lancé la saison 2, on a même des auditeurs qui ont écrit une bible de ce qui a été dit, même si c'est pas dans mon scénario, mais qui a été dit pendant une improvisation et tout ça. Et ça m'aide beaucoup à écrire la suite ou travailler sur le lore. Oui.
Et là, on en est où sans trop en dévoiler, sans trop spoiler, comme on dit désormais, on en est où dans l'enquête actuellement?
Là, dans l'enquête, on a fini la première enquête qui était dans la saison 1 et on a une deuxième enquête qui arrive pour la saison 2 où on est un petit peu plus dans le monde politique, à savoir qui va remplacer Christophe Béchu.
Oh bah ça c'est pas une mince affaire. Bien sûr, vous l'aurez compris, il y a un petit peu d'humour d'ailleurs, extra humour il me semble.
Ouais, et puis ils ont pris une pêche à l'oie aussi.
Une pêche à l'oie.
Ouais, c'est ça. Le cul d'eau, c'est bien ça, Simonneau pour apprendre à enquêter.
Je prends note, Dani.
Il a raison, Simone.
Est-ce que vous pouvez me mettre un collier d'autre côté? Je passerai après.
Ouais, on peut s'arranger.
Merci.
Y a pas de souci.
Topette avec Pierre Benoît.
Et maintenant, on écoute Théophile avec Marcher seul sur le 101.5 FM.
Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque? Malgré les rapports sincères, je donnais beaucoup mais j'étais un seul. Je peux pas m'arrêter de penser que je suis un égotiste. Je crée des projets mais pas pour les autres. Je les inclus mais de part et d'autre. Je suis le centre de tout ce que je fais. Ce qu'il y a à prendre, je le prendrai. Pour souvent celle qui m'a construit.
Est-ce que je fuis?
Je sais pas si je prends le risque.
Me rendre triste.
Si c'est le temps,
si c'est la mort,
si c'est le vent
qui nous rend sauf,
ou l'horizon
qui nous rassure.
Je suis perdu,
je fais des ratures,
je reconstruis,
mais je suis pas sûr.
Si je fais du mal,
si je fais du mal,
je m'en excuse. Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque?
Tellement loin,
je reviendrai pas chercher hôtel. Partout par la solo vie, c'est bien pour moi, je préfère vivre au cinéma, nos bagages. J'ai rien aux bras vagabonds, sans caméra, partout, partout. Je fais des petits papés, ils changent, c'est mon repos. J'arrête quand je veux juste être bien. Je rêve souvent d'arrêter le temps, j'ai trop gâché. Tu vas trop loin, peut-être c'est mes mots qui parlent seul. Je devrais parler qu'avec mes mains, des signes dans l'air brûlé. Les feuilles, phrases fatiguées, pourquoi les dire au lieu d'écrire? Faudrait danser. Laisse-les parler, partons marcher.
Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon autre?
Ou c'est parce que je fuis l'époque? Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon autre? Ou c'est parce que je fuis l'époque? Hey. Je suis comme un bulldozer qui terrasse tout, mais qui se demande comment les autres souffrent. Je me rassure en posant des questions, mais qui ça aide de creuser son trou? C'est pour ma conscience encore une fois. Je veux pas de mal, mais c'est comme ça. J'essaie de faire au mieux, d'être le plus sincère toi dans les yeux. J'ai pas l'intention de te blesser, mais j'ai pas les codes pour ça. Malgré les tensions que j'ai tuées, j'ai toujours une main sur moi.
Émilien et Mathis vont nous partager leur deuxième épisode du Synops. On écoute ça tout de suite.
Le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur, avec Mathis et Émilien.
Mardi 14 octobre à 20h, au cinéma d'Arrée et d'Angers, Les 400 coups, un film humaniste, social, réalisé par Reda Kateb, était projeté en avant-première. Son nom, c'est Sur un fil. Le Synops a donc visionné ce dernier afin de vous livrer notre avis sur un film alliant amour et affectivité sans limite à la réalité d'un monde hospitalier en complications, mêlant le rire au sentiment avec humanité. Pour ce faire, Reda Kateb met en scène Aloïs Sauvage dans le rôle de Zouzou, Sarah Giraudeau pour Clémence, Philippe Robot pour Gilles et enfin Samir Ghesmi pour Abdel. Ce film sort en salle le 30 octobre. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur le site des 400 coups. Je laisse désormais la place à Émilien pour le synopsis.
Joe, acrobate dans un cirque de rue au tempérament téméraire et intrépide, fait une malheureuse chute après l'une de ses performances. Cloîtré dans un fauteuil, la jambe brisée, sa carrière est suspendue pour un temps indéterminé. Mais l'inactivité commence petit à petit à peser sur cet artiste à l'énergie inépuisable. Le destin frappe alors à sa porte lorsque Gilles, clown pour enfants hospitalisé en pédiatrie, lui propose de l'accompagner dans cet univers singulier. Lancé dans l'inconnu, Joe, rapidement, peut-être trop rapidement, rejoint l'association Né pour rire et se mue en Zouzou, son clown, une forme de chimère millibillule mi-fée. Joe, alias Zouzou, va alors au gré des pleurs, des cris et du désespoir des enfants et des parents, tenter de redonner le sourire et la joie de vivre à ces mômes pour qui la vie n'a pas fait de cadeau. C'est alors qu'un magnifique sentiment d'amour et d'amitié va petit à petit naître au sein de ce service pédiatrique, où ce trio éclectique de clowns, sur un fil délicat, tentera inlassablement d'apporter joie et réconfort.
Alors lorsque le film a commencé, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds. Reda Kateb me fait sortir de ma zone de confort, puisqu'auparavant je n'ai jamais été tellement sensibilisé au personnage comique du cirque, à savoir l'humour clownesque. Les premières minutes du film mélangent milieu hospitalier, enfant malade, art du cirque, clown d'un côté et acrobate de l'autre, sans pour autant délaisser sa signature, la précarité sociale des individus de quartier. Ces sujets sont traités avec ménagement et délicatesse, et plus le film se prolonge, plus les messages sont impactants.
J'envisage tout à fait ton point de vue. Après, de mon côté, j'ai été immédiatement happé par le film. Joe, le personnage principal interprété par Aloïs Sauvage, que j'ai découvert, soit dit en passant, je l'ai trouvé tout bonnement grandiose. Son caractère, très rentre-dedans, tête de mule qui se transforme véritablement lorsqu'elle endosse son personnage de Zouzou, son clown, en un être doux, calme, attentionné, voire maternel. Et c'est à ce moment-là où, d'une part, j'ai vu le potentiel immense de l'actrice et d'une autre, la portée, comme tu le dis, de si humain que ce film a su, dès les premières minutes, à mettre en scène.
Pour revenir sur l'aspect social et humanitaire de ce film, Reda Kateb a trouvé un moyen ici de toucher et de parler aux professionnels du monde de la santé, et particulièrement hospitaliers, encore aujourd'hui trop invisibilisés dans nos récits et souvent représentés comme impassibles, sans émotion et froids dans un contexte post-Covid, qui était encore, il y a quelques mois, les héros de notre siècle. Par mon interprétation, je me sens ici un peu insatiable quant à la mise en avant peut-être trop superficielle de la psychologie de ces professionnels de santé et des clowns qui font de leur vie une donation aux malades, et ici en particulier les enfants. Reda Kateb a certes trouvé le moyen de parler à ces professionnels, mais n'a, selon moi, pas mis assez d'accent sur la psychologie de ses protagonistes.
Tout à fait. Reda Kateb n'a pas assez traité, comme tu le dis, l'impact psychologique et mental que ce métier pouvait avoir sur ces individus. Et je suis d'accord aussi, j'aurais bien aimé avoir quelques petits plans sur la vie de Joe ou de Gilles lorsqu'ils se retrouvent tout seuls chez eux le soir, après une dure journée de travail. Un point aussi qui m'a percuté, c'est l'image du clown communiqué dans Sur un fil. On a depuis quelques années une coulrophobie, la peur des clowns, qui s'est généralisée partout. T'as eu la sortie du livre et du film, ça, qui l'a initié, et puis jusqu'à encore très récemment, le film Terrifier 3. Tous ces films transmettent cette même image du clown tueur, un mangeur d'hommes et d'enfants. On en a finalement oublié le rôle principal du clown, qui est d'apporter le sourire. Et c'est là où Reda Kateb a, à mon sens, réussi son pari, c'est de recommuniquer l'identité véritable du clown, au plus profond en plus de ce qui peut être, un être aussi absurde et innocent que l'enfant.
Exactement. Pour te suivre, Reda Kateb propose une nouvelle approche de la vision du clown qui, dans l'imaginaire collectif, est souvent perçu comme l'incarnation même de terreur et de frisson d'un côté ou du comique burlesque avec sa tarte à la crème de l'autre. Et c'est là que Aloïse Sauvage et Philippe Rebaud incarnent le clown comme pratique faisant miroiter une lueur d'espoir dans les yeux des enfants malades.
Il y a un élément que j'ai trouvé légèrement niais dans son métrage, c'est ce côté où le monde est joli et beau, les oiseaux chantent et le sourire des clowns guérit presque miraculeusement le cancer des enfants malades. Mais non, à part peut-être à un moment, on n'a pas ce sentiment clair que ces enfants sont en phase terminale et qu'une partie d'entre eux ne reverront sans doute jamais le jour. Ça aurait été peut-être aussi plus sensible, mais pertinent à mon sens, d'inclure réellement ce côté de la mort, qui est à mon grand désespoir aussi plus que présente dans ces services de pédiatrie.
Et c'est donc ici que Reda Kateb, à travers Sur un fil, place le clown comme un acteur central dans l'apaisement et la rémission des enfants malades, en écartant peut-être les traitements, la médecine et la science. Par conséquent, on pourrait se demander si ce film ne tend pas à tomber dans l'utopie.
C'est déjà la fin de notre podcast où notre analyse sur le film Sur un fil signé Reda Kateb se clôture ici. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également comme d'habitude pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram @lesynops tout attaché. Jusqu'ici, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.
Merci beaucoup Mathis, merci beaucoup Émilien qu'on pourra retrouver très prochainement avec son flash info. J'ai plus la date sous les yeux, mais ça devrait arriver incessamment sous peu, n'est-ce pas Nolwenn?
Et oui, exactement. C'est la fin de cette séquence best-of. Ce soir. Merci de nous avoir écoutés. C'était ma première fois à l'animation, donc c'était un petit peu stressant, mais. J'ai essayé d'apprendre, et c'est en apprenant que je ferais mieux. Donc,
voilà. Voilà, Topette s'est transformée en podcast des confidences de Nolwenn, le journal intime de Nolwenn radiophonique à découvrir. Ça va arriver au fur et à mesure de la saison. Bravo à toi en tout cas, merci Nolwenn.
Merci
de m'avoir épaulé dans cette tâche. Je sais pas lequel des quatre sujets qu'on a entendus ce soir a retenu le plus ton attention. Non, il y en a eu que trois, j'essaie de compter en même temps, mais il y en a eu que trois. T'étais plutôt bocal, football ou podcast radio toi, audio?
Plutôt carrément le bocal avec Noël qui approche et les jeux de plateau, évidemment que ça m'a intéressé. Oui.
Ouais, je sais pas, on avait parlé des papates, hein, si toi t'as déjà en tête d'acheter ça ou le Père Noël dans ta famille a peut-être en tête d'acheter ça pour quelqu'un, un proche.
C'était en projet effectivement, je pense que le Père Noël aime beaucoup les papates, je l'offrirai peut-être.
Voilà, un jeu qui mixe, vous avez écouté hein, tout à l'heure, on vous renvoie vers le podcast sinon originel de l'émission, les 100 ans du NDC, également Notre-Dame-des-Champs Football, le livre est en vente, on a donné les infos pratiques également, on vous renvoie pareil dans le podcast complet de l'émission et puis Richoult. on te salue bien bas si tu nous écoutes actuellement. Et puis on te souhaite bon courage pour le prochain enregistrement des Utopiales. Topette, c'est donc fini pour ce soir. Normalement, on se retrouve demain sans trop de problèmes à partir de 18h10. On sera ensemble jusqu'à 19h pour parler des JNP. J'en dis pas plus, comme ça vous serez avec nous 18h10, 101.5 FM demain. Prenez soin de vous, à demain et Topette.
Topette.